En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Notre comportement est largement conditionné par nos émotions, mais ce domaine reste encore bien mystérieux. La biologie, la médecine, la philosophie, la sociologie et le droit sont des disciplines susceptibles d'aider à mieux approcher ce domaine. C'est la raison pour laquelle a été organisé le colloque « Émotions et santé, émotions et société » à l'Institut de France en novembre 2011. Retrouvez ici l'intervention du professeur Yves Agide, neurologue, membre de l'Académie des sciences. Il développe ici en détail les techniques expérimentales de stimulation électrique dans des zones bien précises du cerveau pour soigner plusieurs pathologies comme la maladie Gilles de la Tourette, les TOC ou encore les dépressions profondes. On retrouve sans plus tarder Yves Agide.
C'est assez intéressant de voir que lorsqu'on veut faire communiquer les sciences humaines et les sciences biologiques et la médecine, c'est un problème de vocabulaire. Il y a beaucoup de malentendus. Et même si la traduction des mots est équivalente, il y a toujours des nuances, des connotations, des corollaires qui nous échappent. Donc dans ce que je vais vous dire, avec une perspective très médicale, c'était plus pour illustrer ce qui a été dit auparavant, je voudrais vous dire comment moi j'entends les mots. On a parlé d'émotions. Les émotions, c'est toujours pour un médecin, c'est quelque chose de très bref. Peur, je vois un lion dans la rue, j'ai peur. Mais il y a aussi les sentiments ou les passions. J'ai repris ici, juste pour votre gouverne, une définition de Comte Sponville qui dit « Une émotion, c'est un affect. » Les affects étant les émotions, les sentiments et les passions. « C'est un affect momentané qui nous meut plus qu'il nous structure, comme le ferait un sentiment, ou qui nous emporte comme le ferait une passion. » Bon, voilà. Donc moi j'adopte cette idée-là, sachant que pour reprendre ce qui a été dit par Monsieur Bechler, qui a beaucoup insisté là-dessus, on peut distinguer des grands groupes d'émotions, dépression, désinhibition, docilité, anxiété, c'est des opposés, l'impulsivité et la grande méticulosité, la scrupulosité comme on voit dans les troubles obsessionnels compulsifs, l'indifférence et la peur, etc. On va parler des émotions. Et l'idée, c'est de reprendre un peu ce que disait Pierre il y a un moment, c'est-à-dire quels sont les circuits de neurones qui véhiculent les émotions dans notre cerveau, avec une perspective physiologique certainement, mais surtout médicale. Pour répondre à cette question, il faut comprendre ce que c'est qu'un cerveau. En effet, le cerveau de l'homme est extrêmement compliqué, puisque vous savez combien ça pèse un cerveau humain ? Il paraît que le cerveau de Lord Byron faisait de l'ordre de 2 kilos. Mais celui d'Anatole France faisait 700 grammes. En moyenne, c'est 1350 grammes. 50 grammes de moins chez la femme. Je déclenche toujours le rire. Mais c'est simplement une question de taille, comme vous le savez. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Mais ce qui est quand même très important à savoir, c'est que vous avez à peu près 85 milliards de neurones. Dans le cerveau, vous avez des cellules nerveuses, c'est des neurones qui font des circuits, bout à bout, en parallèle. Il y en a, en gros, disons 100 milliards. Mais il y a beaucoup d'autres cellules qui sont en beaucoup plus grand nombre, qu'on appelle les cellules gliales, peu importe. Donc vous imaginez, toutes ces cellules étant différentes les unes des autres, on compte 2500 différents types cellulaires, la complexité d'un cerveau, humain en particulier, surtout si l'on sait qu'une cellule nerveuse, voilà par exemple un neurone, vous voyez, on voit ici le corps cellulaire, très schématisé, mais il y a plein de prolongements avec autant de contacts avec les cellules et chaque neurone a à peu près 1000 à 10 000 contacts avec ses voisines. Et chaque neurone produit environ 1000 signaux par seconde. Donc si je multiplie tout ça par cela, eh bien, j'arrive à 10 puissance 18 signaux par seconde, mesdames, messieurs, dans votre cerveau actuellement, même si vous ne me suivez pas parfaitement, il y a 1 milliard de milliards de signaux qui passent par seconde. Avec cet organe-là, un peu compliqué, comme vous pouvez l'imaginer, on commence néanmoins à comprendre comment ça fonctionne. Et donc, on commence à comprendre comment ça dysfonctionne. Et l'idée que je voudrais essayer de développer ici, c'est qu'avec ce que j'ai défini des émotions, qui n'est pas tout à fait ce que disait Pierre ou Monsieur Bechler, mais vous voyez qu'en gros on se comprend, je voudrais essayer de voir ce qui, dans ce cerveau si compliqué, c'est plus compliqué que l'univers, en tout cas au moins aussi compliqué, comment expliquer l'apparition, le contrôle, la gestion des émotions. Alors, pour répondre à cette question, je vais vous dessiner un cerveau. Je reprends ce que disait Monsieur Buzer. Vous regardez cette partie-là, voilà le cerveau, avec sa partie arrière, sa partie en avant, la partie externe, la partie interne, c'est coupé comme ça, hein. Et vous voyez des plusieurs couleurs. En rouge, vous avez le cerveau moteur, c'est-à-dire que si je lève le bras, c'est ça qui va s'allumer, c'est ça qui s'active. Pardonnez la simplification. Si maintenant je commence à avoir un raisonnement du type 5 moins 3 égale 2, à ce moment-là, c'est la partie grise qui s'allume. Ça, c'est le cerveau moteur. Ça, c'est le cerveau, comme on l'appelle, associatif, qui gère en gros l'intellect. Encore une fois, pardonnez la sursimplification. Et puis, quand vous parlez des émotions, Monsieur Buzer l'a bien montré, dans la partie superficielle du cerveau, qu'on appelle le cortex cérébral, c'est ce qui est en jaune ici, vous avez le cortex singulaire, Pierre, vous avez beaucoup insisté, le cortex orbitofrontal, l'hippocampe, l'amygdale, c'est tout ce qui est en jaune. Ça, c'est pour la couche superficielle du cerveau, ça fait 2-3 mm d'épaisseur, et ça couvre l'ensemble du cerveau comme une sorte d'enveloppe. Vous avez là 20 milliards de neurones quand même, c'est-à-dire à peu près le quart des neurones se trouve dans ce cortex cérébral. Donc quand vous touchez ces régions-là, si vous les retirez, si vous les stimulez, vous allez provoquer des émotions. Je répète, sans cortex moteur, le cortex associatif qui est intellectuel, entre guillemets, et le cortex limbique, je crois que vous avez prononcé le mot, qui est en jaune. Or, il se trouve que ces structures à la surface du cerveau se projettent sur des structures qu'on va appeler les noyaux gris de la base, les noyaux gris, qui sont très gros ici, mais qui se trouvent à l'intérieur, ils se trouvent ici. Au milieu du cerveau, c'est rien, c'est très gros ici, mais ça représente 1/50 du cerveau. 1/50 du poids du cerveau. Les noyaux gris, de part et d'autre, vous avez des petites structures assez compliquées, dont je vais parler plus précisément. Pourquoi ? Parce que le cortex cérébral, il est très développé chez les primates, chez les mammifères d'une manière générale, mais les animaux très primitifs n'ont que des noyaux gris centraux. Je simplifie à l'extrême. Ces structures sont apparues chez les poissons et sont au maximum chez les oiseaux et chez les reptiles. Donc beaucoup plus tard dans la phylogénèse. Et ces structures chez les reptiles et les oiseaux, vous avez très peu de cortex. Autrement dit, dans la phylogénèse, si vous voulez, vous avez d'abord quelques cellules nerveuses, puis vous avez l'apparition de ces noyaux gris centraux, puis du cortex cérébral. Et donc ces structures, qui n'existent que chez le pigeon, et qui sont pratiquement isolées chez le pigeon et chez les reptiles, ils ont des territoires identiques à ceux qui sont dans le cortex moteur, et ils y sont liés. Vous avez d'abord, par exemple, les structures motrices qui vont projeter par des longs neurones, encore une fois, c'est grossi ici, mais c'est tout petit, à la partie supérieure de ces structures complexes, qu'on appelle les noyaux gris. C'est en rouge. La partie associative, ce qui est en gris, en haut et à gauche, va projeter à la partie médiane des noyaux gris. Et ce qui est en jaune, qui va nous intéresser ici, puisque je vous l'ai dit que ça gérait les émotions, va projeter à la partie inférieure. Parmi ces structures, je vous en montre une, qu'on va appeler le noyau subthalamique. Je vous le dis, ne retenez pas ce nom, ça n'a aucun intérêt, mais c'est parce que cette structure qui fait 8 mm de large sur 3 mm de haut représente à peu près, je sais pas moi, un 1/10 du poids du cerveau. Vous voyez, elle comprend trois territoires, un territoire moteur, un territoire associatif, un territoire limbique, un territoire moteur qui contrôle le mouvement, un territoire associatif qui contrôle l'intellect. Encore une fois, c'est caricatural ce que je dis, mais c'est pour illustrer, et un territoire limbique qui contrôle les émotions. J'en profite pour vous dire quelque chose, c'est que chez l'homme, comme chez tous les animaux, nous ne sommes faits que d'intellect et d'émotions. Mais l'expression de notre intelligence et de nos émotions est toujours motrice. C'est ce que vous voyez sur mon visage. Je me concentre pour essayer de dire quelque chose de cohérent. J'ai des gestes. J'articule l'élocution pour dire quelque chose. Mais tout ça n'est que moteur. Mais avec mes gestes, avec mon comportement général et avec mon élocution, je dis, j'exprime de l'intellect. Appelons ça de l'intelligence petite, mais un peu d'intelligence, et de l'émotion. L'émotion, par exemple, pour vous convaincre. Et donc, je vais me concentrer sur ces structures. Pourquoi ? Parce que ces structures-là sont responsables de l'ensemble de nos comportements automatiques. Quand je veux faire quelque chose de non automatique, je vais utiliser beaucoup mon cortex, pardonnez la simplification. Mais quand je fais des choses tout à fait automatiques, j'utilise les noyaux gris centraux, comme les oiseaux, comme les reptiles qui ont des comportements, on ne peut pas leur demander de comprendre la théorie d'Einstein sur la relativité restreinte. C'est pas possible. En revanche, ils ont des comportements émotionnels en particulier, pensez, les oiseaux, les reptiles, ont des comportements émotionnels conséquents. Tout ça est géré par cela. Il se trouve que ces structures sont liées quand même au cortex, donc vous avez une boucle, vous avez des cellules nerveuses qui projettent sur ces noyaux, et vous avez ces noyaux qui reprojettent sur le cortex. Vous avez des espèces de boucles cortico-sous-cortico-corticales. Mais ce qui est frappant, et la raison, vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça, c'est que nos médicaments et nos interventions chirurgicales, comme je vais vous le montrer, se font essentiellement ici. Et pourquoi ? Simplement parce que vous avez ici, dans des petits noyaux de rien du tout, 1/50 du poids du cerveau, une représentation informationnelle de pratiquement tout le cortex. Vous avez dans ce petit noyau ici, le noyau subthalamique, une représentation de toute notre activité motrice, de toute notre activité intellectuelle, toute notre activité émotionnelle. Une représentation approximative. On pourrait en discuter. Mais chaque fois que j'agite quelque chose ici, que j'ai une émotion complexe, je vais mettre en jeu le jaune ici. Et chaque fois que je vais mettre ça en jeu, de manière automatique, je vous dis ça, c'est les comportements automatiques, je vais informer ces régions là-haut en jaune. Vous me suivez un peu, l'idée générale ? Si je me suis permis d'insister là-dessus, c'est parce que je vais essayer de concentrer les quelques minutes qui viennent sur ces structures, parce que c'est là que les médecins les manipulent. Par exemple, quand vous donnez des antidépresseurs, quand vous donnez des neuroleptiques pour des psychotiques, quand vous donnez des anxiolytiques, vous agissez essentiellement sur ces structures-là, qui informent celles-là. Alors maintenant, je vous pose une question. En tant que scientifique, si vous souhaitez essayer de montrer que ces structures en jaune, celles-là, mais je vais me concentrer sur celles-ci ici, jouent un rôle dans les émotions, comment est-ce qu'on peut faire ? Je fais souvent devant les étudiants, je pose la question pour essayer d'exciter leur curiosité. Vous avez deux manières, c'est tout simple. La première chose, c'est de provoquer une émotion chez quelqu'un, chez un sujet ou chez un animal, et de regarder ce qui s'allume, ce qui s'active ou ce qui s'inhibe dans le cerveau. Dans le temps, on faisait ça en mettant des électrodes, c'est tout le travail de Monsieur Buzer pendant de nombreuses années, pour enregistrer dans ces régions-là ce qui se passe quand on provoque une émotion chez un chat, par exemple. Puis vous avez l'autre chose, c'est pas suffisant, c'est qu'une fois que vous savez que ces structures, vous devinez que ces structures-là sont impliquées, chez l'homme on le montrera par l'IRM fonctionnel, vous allez manipuler ces régions-là pour voir si vous pouvez reproduire le comportement. Donc vous avez en fait quelque chose qui est la réciproque. D'un côté, je vais vous le montrer avec une image, vous mettez quelqu'un dans une IRM fonctionnelle et vous allez pouvoir des activations ou des inhibitions diverses. Et vous allez provoquer chez cette personne une émotion et vous allez regarder ce qui s'allume. Et puis ensuite, on fera l'inverse. On essaiera de manipuler ces régions-là pour voir si on arrive à reproduire ces émotions. Je donne un exemple que j'aime beaucoup, mais encore une fois, c'est un exemple parmi des quantités, pour montrer que ces structures fondamentalement anciennes phylogénétiquement, celles que je vous ai montrées ici, dans les territoires limbiques, s'allument lorsque vous provoquez une émotion. Comment on fait ? Ben, je vous montre l'expérience de Zeki, J'aurais pu choisir d'autres publications, mais je l'aime bien parce qu'elle est amusante. Le docteur Zeki, à Londres, a produit une annonce dans les journaux londoniens et sur Internet en demandant de recueillir une vingtaine de personnes amoureuses, un couple. Il fallait trouver des couples en passion. Il faut être british pour faire ça, monsieur Gros. Hein. Vous n'auriez jamais eu cette idée-là. Mais Zeki est francophone, en gros. Il est un Libanais très sympathique. Et il a fait ça. Donc il a mis un des membres amoureux dans la machine. Et devant le membre amoureux, un homme ou une femme, on faisait passer des photographies. Par exemple, si c'était un homme, on faisait passer des photos de femmes ordinaires, si j'ose dire, je sais pas, voilà. Et puis de temps en temps, le portrait de l'être aimé. Et par différence entre une femme ordinaire et l'être aimé, on regardait ce qui s'allume. Ben, je vous le demande, qu'est-ce qui s'allume quand vous êtes très amoureux? Alors voilà, moi je pensais que pour quelque chose d'aussi subtil qu'une émotion amoureuse, son papier s'appelle « Romantic Love ». Charmant. Je pensais que c'était des choses très corticales et très nouveaux dans la phylogénèse. En réalité, tel n'est pas le cas. Ce qui est très intéressant, c'est ce qui s'allume de manière majeure, ce sont les territoires émotionnels de ces petites structures que je vous ai montrées. Comme chez le pigeon. Mais vous avez vu des pigeons qui s'aiment d'amour tendre. C'est magnifique. Les pigeons ont un sentiment d'amoureux. D'ailleurs, on s'est parfaitement connu par les éthologistes. Les animaux ont des relations amoureuses, parfois individuelles, d'une très très grande profondeur. Eh bien donc, ceci pour vous montrer donc que vous avez, dans une structure qu'on appelle le striatum ventral en particulier, ou nucleus accumbens, peu importe, une structure qui est un centre d'activation. Pour revenir sur ce que disait Monsieur Buser, il n'y a pas de centre de l'amour, de centre des émotions, il y a des hubs, il y a des sortes de centres d'activation qui font que il y a beaucoup de neurones qui sont mis en jeu dans certaines fonctions. Et ici, devant une émotion aussi subtile que l'amour, vous allez allumer une structure très primitive, très ancienne, qui est apparue chez les poissons, et en particulier dans sa partie limbique, c'est-à-dire émotionnelle. Voilà une manière, un exemple pour montrer que lorsque vous provoquez une émotion même subtile, comme l'amour, vous allumez des choses, des structures qui sont limbiques, émotionnelles, et qui sont très anciennes, très anciennes. Alors maintenant, je fais la réflexion inverse, c'est-à-dire que je me dis, bon, on a mis en évidence que cette structure, ces noyaux gris de la base, s'allument quand on donne une émotion, mais ça pourrait être un effet indirect. Si vous avez, par exemple, une nouvelle très importante dans les journaux, vous savez très bien que c'est souvent les collatérales qui prennent de l'importance dans les médias alors que le fait essentiel disparaît. Donc le fait que ces structures s'allument ne veut pas dire que c'est le centre de l'amour. Si on veut savoir que c'est réellement une structure très importante, il faut manipuler cette structure. Alors comment on faisait dans le temps? On faisait ce que moi j'ai fait pendant toute ma vie, c'est-à-dire que on a des malades, et je vous en donne un exemple, voilà, quelqu'un qui avait ce qu'un de mes assistants a décrit sous le nom de collectionnisme forcé, qui n'a rien à voir avec la collection de timbres. C'est un monsieur de 45 ans à qui on a retiré une tumeur qu'on appelle un méningiome dans la partie antérieure du cerveau. Justement là, dans la région limbique en jaune que je vous ai montré. Et ce monsieur, de manière très curieuse, 2 ans plus tard, a commencé à collectionner des ustensiles ménagers, en particulier des télévisions. Alors, voilà, c'est son salon, par exemple. Il y avait des centaines de télévisions. Il en mettait dans tous les tuyaux, dans les caves. Et un jour, sa femme nous l'a amené à l'hôpital de la Salpêtrière parce que dans la salle de bain, il y avait plein de télévisions et il avait mis une planche sur la baignoire sur laquelle il mettait des télévisions. Et pour prendre un bain, il fallait s'introduire entre la planche et le truc. Donc, elle en a eu assez, elle nous l'a amené. Et c'est très intéressant. Cet homme avait un quotient intellectuel normal, était tout à fait intelligent. Il était, si vous voulez, apparemment, médicalement, tout à fait normal, mais sociologiquement, pas du tout normal. La preuve, c'est pas un comportement normal, ça. Et quand on lui demandait pourquoi vous faites ça, il disait « je ne sais pas ». Vous voyez? C'est donc, heureusement, c'est une affaire qui est relativement bénigne, il est guéri. Et en réalité, qu'est-ce qu'on avait retiré à ce monsieur qui avait donc cette tumeur Eh bien, on lui avait retiré, vous voyez, voilà une coupe de l'IRM, les ventricules sont un peu élargis, mais on lui avait retiré toute la partie antérieure du cerveau, la partie jaune. En retirant la tumeur, on était obligé de disséquer un peu. Et donc, ce monsieur avait un comportement normal, avec une intelligence normale, mais des troubles d'intégration sociale qui témoignent quand même de quelque chose de très particulier, non pas du point de vue intellectuel, mais du point de vue émotionnel. Complètement d'ailleurs indifférent à ce qu'il faisait. Donc des observations comme ça, nous en avons des quantités. Ce qui prouve que, je vous montre ceci pour vous montrer que une manière de montrer que les émotions sont gérées par le cerveau et ses structures limbiques, c'est la médecine qui nous montre que quand on a fait des destructions cellulaires, une tumeur, comme ici qui a été enlevée, un accident vasculaire cérébral, un infarctus, un abcès, une maladie dégénérative, etc., sont des modèles où nous pouvons faire des corrélations anatomo-cliniques. Mais on a un moyen très formidable pour être beaucoup plus précis, parce que quand vous retirez une tumeur, ou vous avez un accident vasculaire cérébral, le bon Dieu n'a pas choisi le territoire de l'accident vasculaire cérébral pour plaire à l'investigateur scientifique, bien entendu. Alors, les lésions sont vastes, peu spécifiques. Ça donne des idées, mais c'est pas très clair. En revanche, avec ce qu'on appelle la stimulation cérébrale profonde, qu'on utilise maintenant couramment dans plusieurs maladies, dont la maladie de Parkinson, dans certains cas, dans 5% des cas de maladie de Parkinson, on peut faire de manière assez spectaculaire, utiliser cette technique qui donne de bons résultats. Voilà les noyaux gris centraux, hein, la ligne médiane est là, le cortex serait là. Vous avez ces noyaux gris très compliqués. Je vous ai montré le noyau subthalamique, cette petite lentille de 8 mm de large sur 3 d'épaisseur, la voilà. Voilà une électrode qui descend avec des plots. On a 4 plots. Les techniques s'améliorent maintenant, qui permettent de stimuler, c'est-à-dire en gros, d'inhiber les circuits de cellules nerveuses in situ. Si je stimule là, je mets du courant là, dans toute cette région-là, je vais avoir un arrêt de fonctionnement des cellules nerveuses. D'accord ? On utilise ça couramment dans la maladie de Parkinson, avec des résultats moteurs spectaculaires, c'est ce que j'appelle la règle des 70%. Les malades sont améliorés en gros de 70%. On améliore les effets secondaires des médicaments de 70% et la vie est changée à 70%. Il y a des gens qui sont parfaitement normaux en Europe. Et puis il y a des gens pour lesquels les résultats sont moins bons, mais c'est pas le sujet. Je voudrais vous parler des émotions. Il se trouve que quand on fait ce genre de manip, chez les patients, on a opéré des centaines et des centaines de patients maintenant, et dans le monde, des dizaines de milliers, on voit apparaître bien souvent de l'impulsivité, de l'hyperactivité émotionnelle. On voit même, et c'est beaucoup plus grave, la décompensation d'états psychiatriques préexistants. Par exemple, quelqu'un qui a fait une grande dépression ne peut pas bénéficier de ça, parce que après l'intervention, on a le grand risque de voir des suicides. On les a vus. Ce qui implique, je vous le dis tout de suite, c'est pas le sujet, mais nous avons une prise en charge psychologique de ces malades avant et surtout après l'intervention pendant plusieurs mois, extrêmement précise pour prévenir ces inconvénients. Je vous montre une malade. C'est une malade parkinsonienne qui va aller très bien. La voilà. Elle est stimulée avec 2 électrodes dans son noyau subthalamique. Elle est, je vous assure, normale. Vous pouvez pas faire le diagnostic. Et tout d'un coup, parce qu'on cherche, on a plusieurs plots, on cherche le paramètre qui est le meilleur, par tâtonnement, on a essayé un autre plot qui se trouvait dans le territoire limbique, on a compris après, dans une autre partie, disons, de la structure, et la malade commence à devenir perplexe. Et tout d'un coup, elle se met à éclater en sanglots. Elle dit « J'en ai marre de la vie, j'en ai marre de la vie, je veux mourir. Pourquoi vous me faites tout ça ? Qu'est-ce que je vous ai fait ? Je sais que je vous ai fait du mal. » Culpabilité, mélancolie. Et ça, en l'espace de quelques secondes, on arrête, en 10 secondes après, est un maniaque, un rebond maniaque, comme on voit souvent. Autrement dit, par la stimulation d'un territoire, je vais simplifier, d'un territoire limbique encore émotionnel, dans ces structures-là, vous ne provoquez pas un état maniaque d'excitation, de bonheur, de joie excessive, mais au contraire, un état dépressif, une mélancolie transitoire, heureusement, c'est un effet secondaire. Il se trouve que cette femme a accepté de refaire, parce qu'on était tellement foudroyé par l'interrogation, elle a accepté de refaire la même expérience, si j'ose dire, en faisant de l'imagerie cérébrale, une caméra à positon. On a montré, je vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué, que, en effet, en faisant ce qu'on appelle du PET scan, vous allumez, l'électrode est ici, vous allumez tous les territoires limbiques d'aval. Autrement dit, on a mis en jeu tous les territoires qui contrôlent les émotions. Vous avez donc le message, c'est lorsque vous stimulez, inhibez ces territoires limbiques dans ces structures qui sont présentes chez le primate, chez les primates, mais aussi chez les reptiles, chez les poissons et chez les oiseaux, vous provoquez des états émotionnels qui vont dans un sens ou dans l'autre. Alors on s'est dit, mais peut-être que, au lieu de regarder ces effets secondaires et de les contrôler, on pourrait utiliser la technique dans des cas psychiatriques dramatiques. Et c'est ce qu'on a fait. On l'a fait, je le dis tout de suite, parce que c'est une technique réversible, après avis du Comité national d'éthique, où je suis maintenant d'ailleurs, parce que c'est quand même de la psychochirurgie, même si la technique est réversible, même si la technique ne détruit pas de cellules, même si c'est adaptable. Et on l'a fait après des études qui ont été faites chez l'animal, et notamment chez le macaque. Donc je ne veux pas détailler ça. Donc je crois que c'est très important, parce qu'on lit dans les médias des choses tout à fait incroyables qui nous ouvrent vers des fantasmes extraordinaires qui ne reposent sur rien. Là, je veux parler d'un travail qui est scientifiquement étayé. Et de cette manière-là, nous avons choisi une maladie neuropsychiatrique par excellence, qui est à la fois psychiatrique et neurologie. Pour moi, il n'y a pas de différence entre la psychiatrie et la neurologie. La différence, la neurologie, c'est qu'il y a des trous ou des boules. On voit des choses. Quand on coupe les cerveaux, en psychiatrie, on voit rien. Parce que c'est des dysfonctionnements qui sont beaucoup plus subtils, qu'ils soient génétiques, qu'ils soient innés ou qu'ils soient acquis d'ailleurs. Et généralement, les deux. Donc, je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est la maladie de Gilles de la Tourette. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une maladie de Gilles de la Tourette? Le mieux, c'est que je vous limite. Non, vous savez ce que c'est, les Gilles de la Tourette? Donc, je regarde bien, j'ai regardé. Il y a au moins 2-3 personnes ici qui ont des petits tics, c'est normal. On a tous des petites manies, ça n'a rien à voir. Et les tiqueurs, quand c'est des maladies de Gilles de la Tourette, c'est effrayant. Ce sont des comportements brefs, explosifs, qui n'ont aucun sens et qui gênent la vie sociale. Comme ça. Par exemple, des choses comme ça, avec des coprolalies, c'est-à-dire des mots orduriers, des échopraxies, des imitations très curieuses. Donc, si vous voulez, ça ressemble à la neurologie, mais en réalité, par exemple, mes amis psychiatres considèrent que c'est une maladie, disons, psychosomatique. Souvent, ces patients ont été pris jusqu'à présent en charge par nos confrères psychanalystes. Mais nous savons maintenant que c'est une maladie parfaitement organique, d'ailleurs avec une composante héréditaire très grande. Alors voilà une jeune femme, elle a une 20aine d'années, elle a un petit garçon, elle a été mise à la porte, elle fait ça tout le temps. Elle ne peut trouver aucun job, alors qu'elle est charmante, elle est toute jolie, elle est très intelligente. Vous voyez ce genre de choses, c'est des tics. Et on lui a mis des électrodes dans les territoires limbiques du noyau subthalamique, je vous passe dans le pallidum, peu importe. Et c'est un protocole qui a duré 1 an par malade. Je vous rappelle qu'on est dans de la psychochirurgie, dans des cas exceptionnels. On fait pas ça à tous les tiqueurs, bien entendu. C'est des gens dont la vie est détériorée. Bourrés de neuroleptiques, hospitalisés dans les hôpitaux psychiatriques en chronique. Vous voyez, tout a disparu. Et quand on a fait une expérience CHAM, c'est-à-dire, on a arrêté la stimulation sans que la patiente le sache, les tics sont réapparus. Donc c'est un travail scientifique qui a montré que, en effet, la stimulation d'un territoire limbique dans ces petites structures, encore une fois primitives, qui sont apparues chez les poissons et présentes chez les pigeons et chez les serpents, vous pouvez supprimer des tics. Cette patiente a été opérée il y a 10 ans. Nous avions commencé par faire 3 patients. J'ai revu ces 3 patients. Maintenant, c'est des 3 personnes qui ont repris une vie normale. Normale. Donc je crois que c'est un bon succès. D'ailleurs, ces techniques sont utilisées maintenant, en particulier en Europe, de manière courante, dans des cas exceptionnels, bien entendu. Le message, c'est Quand je stimule des territoires limbiques, encore une fois, qui gèrent nos émotions, comme on l'a dit, pardonnez de temps en temps de la simplification, mais c'est pour être clair, vous pouvez certes provoquer des états émotionnels délétères, mais vous pouvez, dans certains cas, comme dans cette maladie de Gilles Latourette, supprimer l'éthique. Et vous allez me dire, l'éthique, c'est moteur. Pas tout à fait, parce que l'éthique, ils peuvent se retenir. C'est une maladie qui est très, très psychiatrique, entre guillemets. Ils peuvent se retenir, mais ils ont le, comme disent les Anglais, the urge to move, l'urgence à bouger. C'est une sorte d'impulsion addictive. Là, je vous parle de tics épouvantables. Vous avez vu, encore, j'en ai des pires, mais non, je ne veux pas montrer. Qui brisent la vie sociale. Je vous montre un autre exemple, celui des tocs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous est propre. À la France, on a fait un grand protocole multicentrique, étayé par des travaux scientifiques chez l'animal. Et quel était le principe? C'était encore une fois d'activer, ou enfin plutôt d'inhiber, par stimulation, avec ces électrodes implantées dans les territoires limbiques qui contrôlent les émotions, des malades qui ont des tocs épouvantables. Qu'est-ce que c'est qu'un toc? Ce sont des gens qui ont des obsessions. Des obsessions qu'ils trouvent ridicules, comme par exemple des obsessions de symétrie, des obsessions de rangement, des obsessions de propreté. Et pour résoudre, limiter l'impact de ces obsessions dans la vie courante, les gens ont des compulsions. Et ces compulsions, c'est les fameux lavages de gens qui se lavent les mains. Alors, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui vont rentrer chez eux en disant « Oh là là, moi je me lave les mains 10 fois par jour, est-ce que je n'ai pas un toc ?» À ce moment-là, on a une très bonne consultation à la salpêtrière, mais c'est pas ça que je voulais dire. Non, je parle de gens, moi je parlais d'un patient, si vous voulez, qui passait 16 heures par jour à faire ce genre de stupidité. Et étant dans un état d'angoisse et de dépression, c'est parce qu'il sait très bien, ça n'a aucun importance, c'est très bien que ces tocs, il est parfaitement conscient que c'est complètement idiot. Mais il peut pas s'en empêcher. Et dans des cas dramatiques comme ça, on en a eu 18, on a obtenu des résultats, on est dans le domaine de la recherche, hein, je vous le dis tout de suite, dans le Gilles Latourette et dans les tocs, dans le domaine de la recherche, chez l'homme, en liaison avec ce qui est fait chez l'animal. Dans le Gilles Latourette, les résultats, c'est absolument remarquable. Dans les tocs, on a eu 35% d'amélioration en moyenne, mais certains patients guéris. Et d'autres, on ne sait pas pourquoi, qui ne sont pas guéris du tout, chez lesquels ça n'a pratiquement rien fait, ou une amélioration non significative. Vous voyez, on est donc dans le domaine de la recherche. Il faut comprendre pourquoi. Et je vous donne juste un exemple. Voilà un jeune homme, qui est de Grenoble d'ailleurs, et le docteur Paul Crack, alors c'est dommage, on ne va pas entendre, mais je vais vous le décrire, lui demande, c'est un type qui a une obsession de la mort et de la maladie. Et Paul Crack lui demande de répéter la phrase « Le serpent est mort, il est enterré dans le cimetière, il a eu une attaque cardiaque. » C'est des mots qu'il ne peut pas prononcer. Donc on va avoir une première séquence, c'est très rapide, vous l'entendrez pas mais c'est pas grave, où il ne peut pas répéter ça. Il a des compulsions, vous allez voir, il embrasse la table, il essaie de il trouve des moyens d'échapper à cette obsession. Et puis on le stimule. Il a des électrodes dans la tête, là, tel que vous voyez. Dans cette région limbique, des émotions, etc. Et tout disparaît. Le serpent est décédé. Non, 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 il veut pas. Il est dans un état d'angoisse. Non, 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 non. Ah, il dit. Je ne peux pas. Même si c'est moi qui le dit l'investigateur. Non, 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 non. Vous voyez, il a des compulsions. Vous voyez, hop. Il essaye de limiter ça. Ensuite, après deux minutes après de stimulation, il répète la phrase et voilà. Donc, vous avez compris que dans ce cas-là, ses obsessions étaient améliorées, les compulsions ont disparu par stimulation de ses territoires émotionnels. Dans des maladies, je le répète, qui sont d'une gravité dont vous ne pouvez pas soupçonner sur le plan retentissement personnel et social. Alors, en gros, si je résumais, voilà le cerveau avec le cortex cérébral qui est là, les noyaux gris centraux qui sont un peu grossis exprès, c'est très compliqué, on commence à connaître les routes, on commence à même assez bien les connaître, alors que dans le cortex c'est très compliqué, beaucoup plus compliqué, c'est pour ça que nous travaillons beaucoup sur ces noyaux gris centraux, qui sont responsables de tous nos comportements automatiques, qui sont permanentes et ubiquitaires. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a créé des dépressions en stimulant les territoires limbiques émotionnels de ces structures, de l'hyperémotivité, on vous avait vu un fou rire, On peut provoquer de la rage aussi, mais on peut guérir, enfin améliorer des troubles obsessionnels compulsifs, OCD, ou des maladies de Gilles-la-Tourette pour l'instant. Voilà le résumé de ce que je vous ai dit. Au fond, le message, et vous allez être... J'ai presque fini. Le message, c'est... Vous avez dans le cerveau des territoires limbiques qui gèrent les émotions à côté des territoires associatifs qui gèrent l'intellect, entre guillemets, et des territoires moteurs. Les territoires moteurs n'étant que l'expression de l'intellect et des émotions. Ces territoires sont dans le cortex, sont dans les noeuds gris centraux, il y a une convergence massive, mais pour nous, travailler sur ces structures-là, les modifier pour essayer d'améliorer des symptômes est relativement facile parce que les médiateurs, les neurotransmetteurs sont concentrés là, c'est pour les médicaments, et pour la neurochirurgie, c'est accessible. Si vous voulez, s'il fallait stimuler toute cette région-là, on n'y arriverait pas avec une électrode, tandis que là, avec une électrode, on y arrive. C'est un message. Ces structures limbiques peuvent donner des émotions délétères, dépression, vous avez vu, ou des rires intempestifs, mais peuvent peut-être conduire à l'amélioration de certains symptômes, comme la maladie de Gilles-la-Tourette ou les TOC. Alors vous me direz, je sais ce que je dis, the doctor is happy, mais et le malade? Et si je me suis permis de montrer ça, c'était pour répondre à la question de Madame Tournafond, c'est-à-dire, est-ce que ça a une résonance dans le couple, dans la société, sur le lieu de travail? Eh bien, the doctor is happy, d'accord, mais less so the patient. Autrement dit, le médecin est content, parce que tout, vous voyez ces malades-là, ils ont plus de symptômes, on est content, mais qu'est-ce que ça donne dans la vie courante? Et nous avons étudié ça, et c'est là le lien que nous cherchons, je cherche depuis toujours, avec nos collègues des sciences humaines. Nous avons fait des études psychologiques, et je vous en donne un dans le Parkinson. Je vous donne deux exemples de conjugopathie et de difficultés d'insertion professionnelle chez des malades parkinsoniens qui étaient handicapés pendant 15 ans, malgré les thérapeutiques médicales, opérés, parfaits, 90% d'amélioration, insertion sociale désastreuse, et nous ouvrirons la discussion. Voilà un premier exemple. Je vous donne des exemples. C'est un homme de 48 ans, qui est architecte, qui a eu une maladie de Parkinson qui a commencé tôt, à 33 ans. C'est pas si rare que ça, faut pas croire. Avant la chirurgie, sa femme l'aide dans toutes les activités quotidiennes et l'aide aussi à cacher sa maladie dans son entourage. L'homme est honteux et ne veut pas qu'on sache qu'il est parkinsonien. C'est quelque chose d'assez fréquent quand vous avez un handicap qui se voit, comme dans la maladie de Parkinson, vous n'avez pas, souvent les gens n'ont pas tellement envie de se montrer. Ça dépend, il y a les deux réactions. Après chirurgie, curieusement, qu'est-ce qui se passe? Le malade. Ah, pendant toutes ces années, je me suis laissé conduire par ma femme, comme un enfant, et j'étais incapable de me battre. Maintenant, j'ai envie de prendre ma vie en main et je veux retourner à ma vie précédente. En fait, il est allé en Thaïlande dès qu'il est opéré, se faire faire des soins particuliers, donc ça nous a posé quelques problèmes. Mais je crois qu'il va très bien maintenant. Sa femme, vous voyez, comme je suis content de vous montrer ça parce que il y a la science, evidence-based medicine, il y a les expériences scientifiques, mais quand on a affaire à l'homme, le côté psychologique et individuel est irremplaçable. Il n'y a pas des malades, il n'y a qu'un malade quand vous êtes médecin face à un patient. Depuis qu'il a été opéré, je me sens perdu. Avant l'opération, quand il était handicapé, nous étions un bon couple, parfait. Maintenant, il veut vivre sa vie comme un jeune homme, il veut sortir, il veut rencontrer d'autres personnes, c'est tragique. Je préfère celui qu'il était avant, gentil et docile. L'inverse est vrai. L'inverse est vrai, il y a des patients, j'ai vu, nous avons les deux, vous avez des patients qui, lui, il devient actif, il y a des gens qui viennent, des patients parisiens qui deviennent complètement apathiques, qui regardent la télévision toute la journée en disant « je m'en fiche de tout », etc. Et le conjoint qui dit « mais maintenant que tu es normal, pourquoi tu ne travailles pas ?» etc. Conjugopathie. Conséquence, nous avons écrit un article que j'aime beaucoup qui s'appelait « A distressed mind in a repaired body ». Un esprit disastre dans un corps réparé, dans un cerveau réparé en fait. Conjugopathie. Alors que le malade va très bien. Donc, en tant que médecin, nous devons tenir compte de cela. Il faut comprendre qu'entre la science, la recherche clinique, ça va, on essaie du mal à faire le pont, mais ensuite, il faut passer aux incidences sociales et c'est tout aussi délicat, et je crois que c'était le sujet d'aujourd'hui. Un autre exemple, c'est une femme de 45 ans qui est une chef d'entreprise. Elle a commencé sa maladie à 38 ans, elle, ce qui est aussi assez jeune. Avant la chirurgie, la patiente avait honte d'avoir cette maladie. Elle travaillait beaucoup. Elle disait « Tant que je peux travailler, je peux exister. Le jour où je ne serai plus capable de travailler, je sentirai comme si un rideau tombait sur ma vie. Si je ne suis pas opéré, la bête ira se coucher. La bête ira au lit. » Vous imaginez, c'est terrible. D'ailleurs, c'est un problème pour nous. Les gens ont souvent un investissement trop important, évidemment. Et après l'opération, alors c'est l'inverse. Le patient veut être reconnu comme un malade. Elle ne veut plus travailler. Elle demande des arrêts de travail injustifiés. Je préfère sortir. Je préfère faire des courses dans les magasins. Et je préfère rencontrer des personnes sur le net. Vous voyez ? Encore un problème, quelqu'un qui a été un manager, et après l'opération qui est très bien, mais au point de vue insertion professionnelle, une catastrophe. Alors je vous dis tout de suite, on a commencé à résoudre ces problèmes-là maintenant, parce que ça c'était dans le temps, on était dans le domaine de la recherche. Maintenant, avant l'intervention, nous avons des entretiens psychologiques très approfondis, psychiatriques, et on a un suivi psychiatrique. Donc le message général, c'est de dire que les émotions sont en effet gérées par le cerveau dans des territoires très spécifiques qu'il est possible de manipuler avec, on en est encore au temps de la recherche, des espoirs thérapeutiques. Merci.
C'était Yves Agide, neurologue, membre de l'Académie des sciences. Son intervention portait sur le traitement de troubles émotionnels. Le neurologue intervenait dans le cadre du colloque « Émotions et santé, émotions et société » à l'Institut de France en novembre 2011. Un colloque organisé par l'association Être Humain, présidée par Bérénice Tournafon, et dont vous retrouverez les programmes sur le site hommecontemporain.org. En attendant, restez en notre compagnie en téléchargeant les deux autres interventions de ce colloque. Retrouvez en effet sur notre site la communication de Pierre Buzère, neurobiologiste, membre de l'Académie des sciences. Son propos porte sur le cerveau, les émotions et la vie sociale. Et puis retrouvez également l'introduction de ce colloque réalisé par Bérénice Tournafon, ainsi que l'intervention de Jean Béchler, philosophe et historien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, sur l'impact des émotions dans la société et la politique. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.